Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 6 août 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. La sécurité du Golfe Persique et de la mer d'Oman n'a rien à voir avec les États-Unis. Déclaration d'un commandant en chef de la République islamique d'Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, a reçu en audience le personnel et les familles de la 86e flottille de la marine de la République islamique d'Iran. Le camp du groupe terroriste OMK à Tirana est placé sous haute surveillance en Albanie. Et puis une opération anti-israélienne dans le centre de Tel Aviv a fait au moins un mort et plusieurs blessés. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'Ayatollah Khamenei, a apprécié la mission réussie autour du monde de la 86e flottille de la marine iranienne, la qualifiant de source de fierté sans précédent dans l'histoire des forces navales et de la navigation iranienne, et d'un autre pas en avant pour le renforcement de la sécurité nationale. L'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei a ajouté que l'expédition a montré que la haute mer appartient à toutes les nations et non à des superpuissances telles que les États-Unis. Les Américains lancent des attaques contre les pétroliers et aident les contrebandiers maritimes dans la région et au-delà. Ceci, a-t-il dit, est une violation d'un droit international de l'humanité, car la sécurité maritime doit être assurée pour toutes les nations. La mission de la 86e flottille de la marine, baptisée 360 degrés, comprenant la frégate Dénain et le navire Macron, s'est achevée en mai après un voyage de 8 mois. Les deux navires de guerre iraniens ont commencé leur tour du monde le 20 septembre 2022 depuis la ville portuaire méridionale de Bandar Abbas. 8 mois plus tard, après avoir parcouru 65 000 km en 5 800 heures, le groupe naval est rentré dans le pays. Le commandant et le personnel de la 86e flottille de la marine de la République islamique d'Iran, ainsi que leurs familles, ont été reçus par le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ce dimanche matin, 6 août. L'Iran se dit prêt à partager ses capacités avec des pays amis comme le Sri Lanka. Le président iranien Ebrahim Raisi, se référant aux progrès remarquables de la République islamique d'Iran, réalisés dans divers domaines, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie, malgré les cruelles sanctions, a déclaré « Nous sommes prêts à partager ses capacités avec des pays amis comme le Sri Lanka ». S'exprimant lors d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, M. Ali Sabri, le président Raisi a déclaré que les relations entre les deux pays avaient toujours été constructives et en développement depuis le début de la victoire de la révolution islamique, décrivant les différents potentiels dans les deux pays qui peuvent être utilisés pour promouvoir les relations à des niveaux supérieurs. Évoquant les progrès remarquables de la République islamique d'Iran dans divers domaines, notamment dans les domaines de la science et de la technologie, malgré les cruelles sanctions, le président Raisi a poursuivi « Nous sommes prêts à partager ces capacités avec des pays amis comme le Sri Lanka ». Le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian reçoit le vice-ministre des Affaires étrangères de la Serbie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré ce samedi après-midi le vice-ministre serbe des Affaires étrangères, décrivant les relations bilatérales comme bonnes et progressantes. Amir Abdollahian a évoqué les rencontres entre les responsables iraniens et serbes, y compris le récent voyage du président du Parlement serbe, Vladimir Orlić, à Téhéran, affirmant que l'Iran ne voyait aucune limite à l'élargissement des liens entre les deux pays. Le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a dévoilé de nouveaux systèmes et équipements stratégiques. Ils comprennent d'être rendus de reconnaissance, de renseignements offensifs et de combat. Les forces navales du CGRI ont également reçu des centaines de missiles croisières et balistiques d'une portée de 300 à 1000 km. Les nouveaux équipements ont été dévoilés lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté les hauts gradés des forces armées et un certain nombre de responsables gouvernementaux. Le commandant en chef du CGRI s'est adressé à la cérémonie et a souligné l'importance de renforcer la puissance militaire du pays. Le général de division, Hossein Salami, a déclaré que la présence d'ennemis dans la région de l'Asie occidentale a ouvert des opportunités aboutissant à une augmentation des produits de défense de l'Iran. Il a ajouté que la République islamique d'Iran a fait des progrès importants malgré les sanctions de ses ennemis. La police albanaise a imposé de nouvelles restrictions pour contrôler plus efficacement le camp Ashraf III qui abrite le groupe terroriste OMK Mojahedin e Khalr à Tirana, conformément à ces nouvelles réglementations. Désormais, personne n'est autorisé à entrer ou à sortir du camp sans l'autorisation de la police. Les dirigeants du groupe terroriste OMK sont restés silencieux sur ce nouvel ordre qui vient d'augmenter la pression sur les membres du groupe terroriste, dont beaucoup ont déjà exprimé le souhait de quitter le camp. Ces limites rendent la vie dure à la chef de l'organisation terroriste OMK, à qui il est déjà interdit de quitter les camps sans permis de la police. Dans une décision publiée jeudi 3 août, le tribunal spécial albanais contre la corruption et le crime organisé a ordonné l'interdiction d'entrée de Mariam Rajavi dans le pays, a rapporté l'agence de presse iranienne Tasnim. Des sources bien informées, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que le verdict est intervenu après que des responsables albanais ont examiné les preuves disponibles et ont conclu que l'OMK utilisait le pays pour organiser des attaques antiterroristes. L'OMK a perpétré de nombreux assassinats et attentats à la bombe contre des hommes d'État et des civils iraniens qui ont entraîné la mort de près de 17 000 Iraniens depuis la victoire de la révolution islamique en 1979. L'actualité moyen-orientale, une opération anti-israélienne dans le centre de Tel Aviv a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Les médias israéliens disent que l'auteur a été abattu par les forces israéliennes. Le régime affirme que l'auteur était originaire de la ville cisjordanienne de Jenin occupée. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué l'opération. Les anciens sont vivants en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes effectuant des raids meurtriers sur les villes palestiniennes. Les Palestiniens ont également mené des opérations de représailles qui ont entraîné la mort de plusieurs Israéliens au cours des derniers mois. Parallèlement, les manifestations se poursuivent pour la 31e semaine consécutive contre la réforme judiciaire controversée poussée par le gouvernement d'extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou en Israël. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. La sécurité du Golfe Persique et de la mer d'Oman n'a rien à voir avec les États-Unis. Déclaration d'un commandant en chef de la République islamique d'Iran. Un haut commandant militaire iranien a déclaré que la sécurité du Golfe Persique, de la mer d'Oman et de l'océan Indien n'a rien à voir avec les États-Unis. Le porte-parole des forces armées iraniennes, Abolfazl Shekarchi, a fait ses remarques lors d'un discours devant les journalistes samedi 5 août en réponse au projet américain de mettre des gardes sur les navires commerciaux traversant le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que la sécurité du Golfe Persique, de la mer d'Oman et de l'océan Indien a à voir avec l'Amérique ? « Que faites-vous, les forces américaines, ici ?» a déclaré le commandant, ajoutant « Tous les pays de la région sont capables d'établir la sécurité dans ces eaux. Les États-Unis ont annoncé récemment qu'ils prévoyaient de déployer leurs forces ainsi que des chasseurs à réaction et des navires de guerre dans un nouvel acte d'intrusion dans le Golfe Persique et loin de leurs frontières dans l'espoir de dissuader l'Iran sur son propre territoire. Le déploiement de troupes américaines et du porte-avions USS Batan dans le Golfe Persique, aux côtés d'avions de combat F-35 avancés et d'autres chasseurs, signale l'échec des mesures économiques, diplomatiques, énergétiques de Washington contre l'Iran et intervient alors que les États-Unis souhaitent concentrer la plupart de leurs ressources sur les rivaux nucléaires, la Chine et la Russie, a rapporté mardi Associated Press. En réaction à la décision américaine, le général Shekarchi a déclaré que la politique américaine était de blâmer les pays tiers pour l'insécurité dans la région et de l'utiliser comme prétexte pour renforcer sa présence militaire dans les eaux régionales. Le commandant iranien a fustigé les États-Unis pour avoir pillé les ressources des nations musulmanes pour fabriquer des armes et revend ces armes aux pays de la région. Il a déclaré que les armes fabriquées par les États-Unis et l'Europe sont désormais utilisées contre des civils à Gaza et au Yémen. Mais ils accusent l'Iran de s'ingérer dans les affaires des pays de la région. Faisant référence aux exercices menés mercredi par la marine du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI dans le Golfe Persique, Shekarchi a déclaré que les manœuvres visaient à envoyer un message aux pays de la région selon lequel ils n'ont pas besoin de compter sur les étrangers pour assurer la sécurité de la région. Le haut commandant militaire a conseillé aux pays de la région de faire confiance à l'Iran, déclarant « Nous garantissons l'établissement de la sécurité dans les eaux régionales. » La marine du CGRI a effectué ses derniers exercices navals sur l'île d'Abu Moussa pour montrer sa puissance et sa volonté de protéger la sécurité du Golfe Persique ainsi que celle de toutes les îles iraniennes qui s'y trouvent. Les forces présentes dans ces manœuvres comprenaient des unités opérationnelles, des missiles, des drones, de combat aérien et maritime, de guerre électronique et d'intervention rapide, ainsi que des forces volontaires, Basij. Shekarchi a en outre averti ceux qui convoitent les trois îles iraniennes du Golfe Persique de prêter attention à l'autorité de la République islamique d'Iran afin d'éviter toute erreur de calcul. Les trois îles du Golfe Persique, Abu Moussa, la Petite Tombe et la Grande Tombe, font historiquement partie de l'Iran. Et la preuve se trouve dans d'innombrables documents historiques, juridiques et géographiques en Iran et dans d'autres parties du monde. Cependant, les Émirats arabes unis ont à plusieurs reprises formulé des revendications sans fondement sur ces îles.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, après le coup d'État au Niger par l'armée nigérienne, dépossédant le président Mohamed Bazoum dans ce pays, la France craint le pire. Alors, la France craint de revivre le scénario du Mali et celui du Burkina Faso, où elle a donc quitté de manière la plus honteuse ces pays-là. Alors, la France a appelé au rétablissement des institutions démocratiques dans ce pays, exigeant que les contrats signés entre les deux pays se poursuivent. Mais la junte au pouvoir exige que les contrats économiques demeurent, mais les contrats militaires cessent les activités. Alors, la population nigérienne, ce qui est la plus importante, ignorant donc ces menaces et ces réactions, scandent des slogans très forts à l'encontre de la France et sont plus déterminés que jamais d'aller jusqu'au bout. Nous allons développer ces questions-là, cette politique de double face de la France et un peu de la junte au pouvoir avec, à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Ça a pris note vendredi de la décision de la junte au pouvoir au Niger de révoquer différents accords de coopération militaire avec la France. Un décret annonçant la fin de différents accords militaires avec Paris a été lu à la télévision publique jeudi soir par Amadou Abdrahman, un représentant de la junte nigérienne. En réaction, Paris a appelé de nouveau au rétablissement des institutions démocratiques au Niger, les seules autorités nigériennes légitimes reconnues par la France. La France rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec le Niger en matière de défense repose sur des accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes, indique le Quai d'Orsay. Comme au Mali et au Burkina Faso, deux pays voisins théâtres de putsch au cours des deux dernières années, le coup d'État mené par l'armée nigérienne pour déposséder le président Mohamed Bazoum du pouvoir est intervenu sur fond de ressentiment à l'égard de la France, ancienne puissance coloniale accusée par certains locaux d'interférer dans les affaires du pays. La France compte entre 1 000 et 1 500 soldats stationnés au Niger. La France a rappelé dans la journée, par la voix de la ministre des Affaires étrangères, qu'elle restait attachée au rétablissement de la démocratie au Niger. Les militaires nigériens qui ont renversé le président élu, Mohamed Bazoum, ont accusé lundi la France de vouloir intervenir militairement, au lendemain d'un sommet des voisins ouest-africains du Niger menaçant d'utiliser la force s'il n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici dimanche. La France, ex-puissance coloniale au Niger et soutien indéfectible du président Bazoum, apparaît comme la cible privilégiée des militaires ayant pris le pouvoir. Ils l'ont accusé lundi de vouloir intervenir militairement et d'avoir tiré dimanche du gaz lacrymogène contre des manifestants pro-junte devant l'ambassade de France. Dans sa ligne de conduite, allant dans le sens de la recherche des voies et des moyens pour intervenir militairement en Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires afin de rétablir Mohamed Bazoum, indique un communiqué de la junte. Dans un autre communiqué, les putschistes accusent les services de sécurité d'une chancellerie occidentale, sans préciser laquelle, d'avoir tiré dimanche à Niamey du gaz lacrymogène sur des manifestants soutenant la junte, avec pour conséquence 6 blessés, pris en charge par les hôpitaux de la capitale.
Eh bien voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat depuis Téhéran. Alors j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Jean-Maxime Corneille, expert des questions internationales qui a accepté notre invitation depuis Versailles. Monsieur Corneille, bonjour.
Bonjour Téhéran, merci pour votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Un grand bonjour à Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour à vos spectateurs et bien entendu à votre invité.
Voilà, ma première question va s'adresser à Luc Michel. Alors, monsieur Michel, vous êtes un habitué du plateau Débat depuis Téhéran. Les intérêts de la France sont en péril en France, n'est-ce pas?
Mais il y a surtout que la France fait une erreur d'appréciation. Elle croit que le sentiment du français, c'est quelque chose de structurel et d'artificiel, une construction intellectuelle qui est due à la propagande russe, alors que c'est un tsunami, une vague de fond qui soulève les opinions publiques africaines contre l'ancien colon français. Tout le drame de la situation actuelle est là-bas.
Absolument. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Jean-Maxime Corneille. Et monsieur Corneille, la France va sans doute revivre le scénario du Mali et du Burkina Faso, où elle a quitté de manière la plus honteuse ces pays-là. Que pensez-vous?
Alors, de fait, oui, ce qui est extrêmement intéressant, je le dis depuis des années, la France est entre deux feux, faute d'avoir su choisir le camp russo-chinois, qui en réalité reprend toutes les constantes géostratégiques de l'ancien empire colonial français. C'est-à-dire que je pense qu'il est nécessaire d'avoir une vision, on va dire, parallèle dans l'histoire. Et pour bien faire comprendre que ce n'est pas la France qui tire les ficelles, c'est juste la France qui est poussée depuis des décennies à l'abandon de ses intérêts stratégiques et surtout à l'abandon d'anciennes logiques coloniales qui n'étaient pas que négatives, mais qui le sont tout à fait devenues, spécialement depuis l'ère Sarkozy. Avant tout depuis l'ère Mitterrand, qui a réellement saboté délibérément la France-Afrique parce qu'il était lui-même le pantin des intérêts anglo-américano-israéliens. Puis Chirac, qui par son manque de courage et par un certain nombre de mauvaises décisions a permis des énormes gaffes, contrairement à ce que l'on pourrait penser, avec l'aide évidemment des complicités trotskistes type Jospin à l'époque, notamment Rwanda et Côte d'Ivoire, et également même de la droite internationaliste, c'est encore un autre problème au Rwanda 93-94. Et rappelez-vous que pour comprendre qui tire les ficelles, rappelez-vous du précédent du Sud-Soudan. Je le dis simplement, et ça sera ma remarque, on va dire, d'introduction, ce n'est pas la France qui a fait éclater le Soudan. Et ceci devrait éveiller notre attention. En réalité, c'était une lutte d'influence face à la Chine et qui reprenait en réalité les anciennes constantes géostratégiques de l'époque où la France avait voulu créer un chemin de fer de l'ouest à l'est jusqu'à Djibouti, depuis l'ouest, je crois, Dakar, tandis que les Britanniques voulaient unifier leur empire colonial du nord au sud, du Caire au Cap, en unifiant avant tout les matières premières stratégiques que les Britanniques spoliaient aux Africains, spécialement l'or et le diamant d'Afrique du Sud, qu'ils faisaient converger vers la City. Là où les Français ont créé des logiques de développement, les Britanniques ont avant tout créé des logiques de prédation, et par la suite, les Français ont eux aussi rejoint cette logique de prédation. Et surtout après la décolonisation, en fait. C'est en ce sens que mon point de vue ne serait pas restrictivement uniquement pro-français, puisque aujourd'hui, j'estime que la France, et j'ai de bonnes raisons de le dire, la France est absolument détournée aujourd'hui par, globalement, les anglo-américano-israéliens, et c'est un drame pour la France. Mais dans ce contexte, il est une bonne chose, ironiquement, je le dis en tant que patriote français, que la France détournée du président Macron se fasse tailler des croupières de cette façon-là. Mais encore une fois, le drame, c'est que nous sommes entre deux feux, faute d'avoir su choisir la Russie et la Chine, alors qu'eux-mêmes reprennent, et ils auraient été volontaires pour cette alliance-là, et ils reprennent les constantes géostratégiques françaises avec la puissance qu'il nous manquait à nous, la France, à l'époque où nous étions seuls face aux intérêts anglo-américano-israéliens, et également même au sale jeu de la Russie soviétique et de la Chine maoïste. Nous étions réellement seuls et aujourd'hui nous aurions une meilleure alliance à choisir, nous ne le faisons pas. La conséquence, nous la voyons sous nos yeux. Voilà pour ma longue remarque d'introduction, pardonnez-moi.
Non, je vous en prie. Merci pour le rappel de l'histoire. Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Maxime Corneille sur ce sujet-là?
Non. Comme d'habitude, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que la France, l'héritage français repris par les Russes, mais au contraire que Moscou, depuis 1922, le congrès de Bakou combat l'impérialisme franquin. En 1975, la France de Giscard d'Estaing est devenue le gendarme de l'Afrique et le gendarme des Occidentaux. C'est une position qui a été tenue jusqu'au début de l'ère de Donald Trump. Mais aujourd'hui, la France est prise entre le marteau et l'enclume. D'un côté, le marteau de l'opinion publique panafricaine qui se soulève contre le colonialisme français dans toute l'Afrique. De l'autre côté, l'enclume anglo-américaine qui est une séquelle du Brexit et qui veut chasser la France de ce marché en Afrique. Je ne suis pas du tout donc d'accord avec le point de vue de M. Corneille.
M. Corneille, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Bien, alors Luc Michel, croisons un peu le fer. Luc Michel, bien sûr, confond la Russie et l'URSS. Or, la vieille expertise française disait que l'URSS n'était que la Russie, qui était devenue la proie d'un syndicat organisé pour la destruction des nations. Confondre ainsi la Russie et l'URSS n'a aucun sens. Par contre, je vais vous dire quelque chose de très sensible. Et là, c'est quelque chose de très peu compris. L'URSS s'est livrée, mais à vrai dire, comme toutes les idéologies rouges, à un trafic sur les bonnes volontés populaires partout. Et spécialement en Russie, la Russie en a été détruite alors qu'aucun pays ne s'était davantage développé que la Russie avant la révolution bolchevique. La révolution bolchevique était un complot globalement britannique, mais également avec l'aide d'un certain fanatisme juif russo-polonais. C'est une histoire bien spécifique, laissons-la de côté. Mais le but était de détruire le développement de la Russie à l'époque et par la suite de faire de la Russie devenue bolchevique puis soviétique une base de subversion internationaliste pour de nouveau trafiquer sur les bonnes volontés populaires, y compris à l'étranger. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est juste que la France a été le gendarme des Occidentaux dans un certain contexte anticommuniste à l'époque d'Alexandre de Maranche, c'est tout à fait vrai. Et que si c'est arrêté à l'époque Trump, non, ça s'est arrêté dès l'époque Obama et même dès l'époque Bush, c'est encore autre chose. et même des années 90 en réalité. Pardon, je ne vais pas reprendre toute la chronologie de cela, mais je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a une histoire de contrôle réflexif. Dans le jeu qu'ont joué les guerriers rouges, que cela soit en Amérique du Sud, en Afrique ou ailleurs, les guérillas rouges, plus ou moins trotskistes, soviétiques, marxistes, on pourrait prendre l'exemple de l'Angola, mais surtout les exemples de l'Amérique du Sud ou d'autres pays en Afrique, les guérillas rouges servaient à ramollir des États non coopératifs et à leur faire demander l'aide, qui de la CIA, qui des Britanniques. Et en effet, la France s'est organisée dans les années 60 et 70, à la suite de la guerre du Biafra. Nous avons livré une guerre aussi implacable que les Britanniques nous en avaient livré dans tout notre empire, à l'occasion de la guerre du Biafra, où nous avons joué un sale jeu pour que les Britanniques nous lâchent sur la question des pétroles du Gabon. Parce qu'il fallait que la France ait quand même du pétrole, sinon la France serait devenue un pays du tiers-monde. C'est tout à fait vrai. Mais il faut bien vous dire quelque chose. Si la France d'Afrique n'avait pas joué ce jeu-là, qu'est-ce qu'il se serait passé? Les Anglo-Américains auraient mis en coupe réglée tous les pays africains, et d'une façon bien plus brutale que la France, parce qu'à la différence des Anglo-Américains, nous avons créé des élites lettrées, comme il y avait notamment en Côte d'Ivoire. Et en fait, c'est la raison pour laquelle toutes nos vitrines en Afrique ont été détruites de cette façon-là. Le drame actuel, c'est que la France, ayant choisi les anglo-américano-israéliens, tout en étant méprisée et haïe par les anglo-américano-israéliens, parce que la France représente en réalité autre chose, la vraie France, c'est pas celle que l'on voit aujourd'hui, eh bien c'est la raison pour laquelle nous avons vu chez nous coopter des traîtres à nos intérêts stratégiques, qui sont globalement des prostituées au service des intérêts anglo-américano-israéliens, et qui aboutissent à ce que, par des gaffes absolument grossières, les Africains aujourd'hui nous méprisent et ont raison de nous mépriser dans ce contexte où nous prétendons leur imposer des bonnes pratiques ou des ambassadeurs aux droits des LGBT, ou bien quand notre président, soi-disant, se couvre de honte auprès de la population africaine en RDC, où on le voit en fin de soirée à moitié coquet. C'est une belle image de la France, mais ce n'est pas vraiment, par exemple, celle que De Gaulle aurait été donnée. Et pourtant, je suis modérément gaulliste sur les questions france-africaines. Mais donc, aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence logique que les Africains choisissent la Russie contre la France, parce que la France fait tout pour, et la France a été détournée pour, justement, se faire elle-même détruire de toutes les façons possibles en termes de crédibilité et en termes factuels.
Absolument.
Voilà ma réponse un peu longue, pardon.
Non, je vous en prie, c'était très bien. Luc Michel, avant de revenir au sujet du Niger, est-ce que vous voulez bien répondre à Jean-Maxime Corneille?
Oui. Opposer la Russie et l'Union soviétique est un non-sens. Ce n'est pas comprendre que la Russie de Poutine est à la fois l'héritière de l'Union soviétique et de l'Empire des Tsars. Personnellement, je place mon combat dans l'idée du citoyen soviétique Joël Slovo en Afrique du Sud et du militant communiste Gaston au Cameroun et en Algérie. Il faut comprendre que l'impérialisme français, c'est un impérialisme comme les autres. Et c'est une fonction politique qui oppose l'intérêt de la France avec ceux des Britanniques, des Anglo-Saxons, des Israéliens. Tous sont complices, mais dans l'affaire, évidemment, la France s'est fait rouler comme des larrons en pointe par les Soviétiques et aujourd'hui par les Russes. C'est cela la vérité. Aujourd'hui, la présence russe en Afrique, elle puise ses racines, elle puise ses assises dans l'héritage soviétique.
Luc Michel, revenons si vous voulez bien au sujet de Niger, où la France a appelé donc au rétablissement des institutions démocratiques de ce pays-là. Et d'autre part, la France menace d'intervention militaire au Niger. Et d'un autre côté, la junte au pouvoir est d'accord que les contrats économiques se poursuivent et pas de contrats militaires. Est-ce qu'on ne voit pas cette politique de deux poids deux mesures chez la France et un peu chez la junte militaire, Luc Michel?
Écoutez, il faut examiner la situation du point de vue de la géopolitique pure. C'est le dernier pion de l'impérialisme, le dernier domino qui est en train de tomber au Niger. Mais le Niger est indispensable à la fois à la présence coloniale française, mais également à la présence américaine, à la présence allemande, à la présence espagnole en Afrique. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, évidemment, ces gens et leurs domestiques africains de la CEO sont décidés, évidemment, à chercher la confrontation.
Jean-Maxime Cornet, à ce sujet, qu'avez-vous à dire? Je vous prie.
Plusieurs choses dans l'ordre. Le trafic sur l'héritage soviétique, sur l'agitprop soviétique, c'est vrai, la France s'en souvient, par exemple, la prise d'otage de Loyada à Djibouti, où il y avait des conseillers soviétiques derrière, par exemple. Mais aujourd'hui, les Russes, en effet, reprennent certains canons de l'agitprop de l'URSS, mais les Russes sont avant tout pragmatiques et dans ce contexte-là, ils ont raison. Les Russes ont raison aujourd'hui de faire flèche de tout bois contre la France, même s'il y a un certain trafic assez malsain sur un ancien héritage communiste qui, en réalité, je l'ai dit, était un trafic sur les bonnes volontés populaires. Mais dans un contexte où les Africains n'avaient que d'un côté le libéralisme à l'anglo-saxon excessif et de l'autre côté les idéologies communistes. Le drame est que les idéologies globalement rouges ont détourné les peuples vers globalement ce qui a été leur propre destruction et la destruction de leur niveau de vie. Ça, c'est un méta-sujet sur lequel que je ne vais pas développer là tout de suite. En tout cas, les Russes sont pragmatiques aujourd'hui et ils ont raison de l'être. C'est-à-dire qu'ils surfent sur tout ce qui peut permettre une agitprop anti-française. C'est tactique de leur part. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les Russes soient totalement dupes pour autant. Mais par certains égards, les Russes reprennent aussi des canons de l'URSS qui leur posent de grands problèmes en Ukraine. C'est parce que les Russes ont du mal à séparer leur histoire russe et celle de l'URSS, par exemple, contre l'Ukraine. Ce sont les bolcheviks qui ont massacré l'Ukraine, hein. Ce ne sont pas les Russes. Et les Ukrainiens sont avant tout des Russes dont on dit aujourd'hui que ce sont des Ukrainiens. C'est un autre sujet. Mais cette absence. Comment dire ça? Pour moi, c'est une faiblesse, c'est un grand talon d'Achille de la Russie. Mais revenons ici à notre sujet. La France se retrouve ici dans un contexte, le pire contexte en matière de lobbying, c'est-à-dire que la France se retrouve dans une position défensive à subir le jeu adverse, alors qu'elle a mis des années à créer les conditions de sa propre faiblesse par la suite d'un activisme anglo-américano-israélien derrière des gens comme Hollande, Macron et compagnie, et évidemment Sarkozy, Sarkozy qu'il faudrait plutôt surnommer Sarkozy-Wisner. Sarkozy, du nom de son traitant de la CIA, c'est bien connu des initiés, vous dirais-je, mais ces gens-là détruisent les intérêts français. Et la France aujourd'hui fait semblant de découvrir quelque chose, et on voit le président Macron qui fait semblant de dire: Oh, la DGSE ne m'a pas prévenu. Non, non, mais il est juste bête, ce garçon, il ne connaît juste pas le sujet. Il ne dit que ce qu'on lui dit de dire entre deux séances de chemsex ou d'autres activités inavouables. Ça, c'est un énorme problème, mais la France se discrédite. Ce qui est assez drôle, c'est de voir que la France pousse des cris d'orfraie contre les lacrymos utilisés contre les manifestants. Oui, on a vu ce qui s'est passé en France. La France est une grande spécialiste de l'éborgnement ou du meurtre de manifestants pacifiques. Ça, c'est un autre problème. Mais la réalité, c'est qu'en effet, on va avoir un jeu de dominos qui va en réalité faire du mal à l'Occident, mais surtout à l'Europe. Et Poutine l'a dit de façon intelligente. Tous ces gens qui disent que la Russie va attaquer en Europe à coups d'armes nucléaires, tout ça, c'est de la propagande. Les Russes contrôlent la situation et ils sont bien trop intelligents pour cela. Et surtout, ils connaissent le prix du sang. Par contre, ce que la Russie fait intelligemment, c'est atteindre l'Occident, l'Europe en tout cas, par son talon d'Achille, c'est-à-dire ses liens avec l'Afrique. En réalité, le manque de matières premières stratégiques et spécialement de pétrole va faire que l'Europe va devenir une cocotte minute dans laquelle, en effet, il va y avoir des changements politiques permis avant tout par un pourrissement de la situation et non pas par une pseudo-intervention militaire russe contre la gentille Europe défenderesse des libertés mondiales. Ça, c'est de la propagande, là, encore une fois. Mais donc, la France se fait toucher par son talon d'Achille, mais un talon d'Achille qui a été artificiellement créé. Et le prochain domino, ça sera le Tchad. Le Tchad qui est là un point stratégique. Le message qu'a envoyé la France depuis, en réalité, de Rwanda, puis surtout la Côte d'Ivoire, on est en 99, c'est que la France n'étant pas une garantie de sécurité claire comme du temps de la vraie France-Afrique, eh bien, les Africains ont raison de retourner leur veste dans ce contexte où la France prétend leur imposer des choses d'une façon grossièrement suprématiste et paternaliste qui est absolument malsaine. Ce ne sont pas des relations saines. Et en même temps, les Africains sont également attirés peut-être à arriver peut-être à une nouvelle maturité. Mais je pense avant tout que c'est parce que la France fait preuve de toutes les carences en même temps, toutes les défaillances en même temps.
Absolument. Luc Michel, est-ce que déjà vous comprenez la colère de Jean-Maxime Cornet à l'égard du Macron, par exemple, ou du Sarkozy?
Je partage évidemment sa détestation des élites atlantistes. Le grand géopoliticien européen, le général autrichien Jordi von Lauzen, a dit au moment de sa vie que les élites atlantistes européennes faisaient des guerres américaines en Yougoslavie et en Irak et en Afghanistan contre les intérêts mêmes des peuples européens. Je partage cela. Mais séparer le Moscou de la guerre froide, du Moscou d'aujourd'hui, c'est un non-sens. Staline était un dernier tsar, c'était l'héritier des tsars. Et en même temps, aujourd'hui, comme Poutine est l'héritier des tsars et de Staline. L'Empire russe, Staline l'a conduit jusqu'à Berlin. C'est là qu'il faut parler donc de travestissement du communisme et d'affaiblissement de la Russie dans le communisme. C'est une tête extrêmement que je ne partage pas. Je suis moi-même, je me suis engagé pour Moscou. Je ne m'engage pas sous l'Union soviétique. Je suis un partisan de l'Union soviétique, de la Russie d'aujourd'hui, parce que la Russie est la dernière puissance indépendante en Europe. Et parce qu'aujourd'hui, comme hier, l'URSS porte la liberté des peuples du monde. Et aujourd'hui, c'est le cas de la Russie de Poutine.
Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Maxime Cornet quand il parle d'un prochain pas qui serait le Tchad, où ce domino va terminer au Niger?
Écoutez, croire que ça va s'arrêter au Sahel, c'est une fausse théorie française. Il y a des manifestants au Tchad qui brandissent, qui brûlent des drapeaux français. Il y a des projets en Guinée équatoriale pour insérer, amener la Russie et la Chine au milieu du golfe de Guinée depuis des années. Donc évidemment, la chute de la France en Afrique ne s'arrêtera pas. Les Russes et les Chinois, opportunément, ils visent la France parce que la France est le ventre mou de l'impérialisme. Mais ça ne s'arrêtera pas, évidemment, au pays du Sahel.
Absolument. Jean-Maxime Corneille, expert des questions internationales. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à Luc Michel, géopoliticien qui nous a accompagnés depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Afrique économique.
Chers auditeurs et auditrices, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Afrique économie en ce 6 août 2023 depuis la capitale iranienne, Téhéran. Afrique économie est une émission durant laquelle nous essayons de passer en revue les actualités économiques les plus importantes de la semaine passée sur le continent africain. Restez avec nous. La Facilité africaine de l'eau mobilisera 500 millions de dollars pour son fonds spécialisé dans l'assainissement urbain. La Facilité hébergée par la BAD s'est jusqu'ici contentée d'octroyer des dons et une assistance technique pour la mise en œuvre de projets d'infrastructures hydrauliques. Le nouveau fonds devrait lui permettre d'accorder des financements plus importants. La Facilité africaine de l'eau envisage de mobiliser 500 millions de dollars pour son fonds spécialisé dans l'assainissement urbain afin d'augmenter les investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sur le continent, a rapporté Bloomberg mercredi 2 août. La FAE est une initiative lancée en 2004 par le Conseil des ministres africains de l'eau installé à la Banque africaine de développement. Ce fonds spécialisé octroie des dons et offre une assistance technique à l'appui de la préparation et de la mise en œuvre de projets d'infrastructures hydrauliques et de mesures de gestion de l'eau en Afrique. Nous prévoyons désormais de passer à l'échelle supérieure. Le fonds d'investissement pour l'assainissement urbain en Afrique commencera à accorder des prêts pour une durabilité à plus long terme, a déclaré le coordinateur de la FAE, Cherashirva, cité par Bloomberg. Selon lui, les ressources du nouveau fonds devraient provenir de la BAD, des donateurs et des investisseurs privés. Depuis le lancement officiel de ses activités en 2006, la Facilité a alloué 205 millions d'euros de dons à 133 projets dans 52 pays africains et a permis plus de 1,7 milliard d'euros d'investissement en aval dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Thank you. OPEP+ devrait garder intacte sa politique de production pétrolière dans le contexte de la hausse des prix. En juin, l'OPEP+ a conclu un accord visant à limiter l'offre. Jusqu'en 2024, l'Arabie saoudite s'engageant à réduire volontairement sa production jusqu'en août. Les analystes prévoient que la réduction volontaire pourrait être prolongée jusqu'en septembre. Le groupe de l'OPEP+ ne devrait pas modifier sa politique actuelle de production de pétrole lors de la prochaine réunion du comité ministériel conjoint le 4 août. C'est ce qu'on a confié à Reuters 6, différentes sources proches du cartel et de ses alliés. Bien qu'aucun changement ne soit attendu, les observateurs du marché reconnaissent que des surprises se sont produites dans le passé et le ministre saoudien de l'énergie a déjà exprimé l'intention de l'OPEP+ de poursuivre ses efforts pour renforcer le dynamisme du marché. Pour sa part, le ministère de l'énergie des Émirats arabes unis, l'un des principaux producteurs du cartel, a indiqué que les actions de l'OPEP sont suffisantes pour l'instant, mais que le groupe reste prêt à réagir si des mesures supplémentaires s'avèrent nécessaires. Une information qui arrive alors que les prix du pétrole ont atteint ces derniers jours leur plus haut niveau en 3 mois, dépassant la barre des 85 $ pour le baril de Brent, une performance qu'il faut attribuer au resserrement de l'offre par le groupe et à une demande un peu plus soutenue. Au Rwanda, le géant Rio Tinto investit dans l'exploration du lithium. Selon une estimation de Benchmark Mineral, la demande mondiale de lithium devrait croître de 27% pour atteindre 900 000 tonnes en 2023 et jusqu'à 1,5 million de tonnes en 2026. Ces perspectives attirent davantage de compagnies minières en Afrique, un continent encore sous-exploré. Rio Tinto entre dans le secteur minier rwandais. Le géant anglo-australien va investir au moins 7,5 millions de dollars dans l'exploration du lithium sur les 5 prochaines années, selon un communiqué publié le 1er août par la junior minière britannique Aterian. Aterian a en effet conclu via sa filiale rwandaise Kinunga Mining un accord de co-entreprise permettant à Rio Tinto de gagner jusqu'à 75% d'intérêt dans le projet HCK. Nous avons identifié 19 zones distinctes de pegmatite. Ces zones sont des zones de distinctes de pegmatite LCT, lithium, césium, tantale, dans le projet de 2750 hectares, offrant l'échelle prospective nécessaire pour attirer un partenaire aussi important que Rio Tinto, explique Charles Bray, président d'Aterian. Dans les détails, Rio Tinto dépensera 1 à 3 millions de dollars en travaux d'exploration sur 2 ans afin d'obtenir 51% d'intérêt. Le géant minier complétera son investissement avec 4,5 millions de dollars de dépenses d'exploration sur les 3 années suivantes, portant sa participation dans le projet à 75%. Un paiement en espèces de 300 000 dollars sera par ailleurs effectué au profit de Kinunga Mining, dans lequel la société rwandaise ICK Mining détient 70% d'intérêt. Rio Tinto a aussi accepté une redevance minière de 2% sur les revenus nets de fonderie avec un plafond de 50 millions de dollars. En Angola, le gouvernement prépare un appel d'offres pour la gestion du futur aéroport de Luanda. Sur le modèle d'un aérotropolis, le projet du nouvel aéroport de Luanda est annoncé comme un catalyseur qui accélérera l'urbanisation des périphéries de la ville et aidera l'Angola à devenir une plaque tournante régionale de l'aviation civile. Le gouvernement angolais lancera en septembre prochain un appel d'offres international en vue de sélectionner un exploitant pour le nouvel aéroport international de Luanda, d'après le ministre des Transports Ricardo Dabreu. Nous préparons les pièces nécessaires au lancement d'une compétition internationale. Nous devrions lancer cet appel d'offres international en septembre 2023, a-t-il déclaré. Le chantier est dans sa phase de finalisation, selon les autorités, notamment pour les travaux de génie civil, alors que les procédures sont en cours pour la certification par l'Organisation de l'aviation civile internationale afin de permettre l'opérationnalisation de l'aéroport tel qu'annoncé pour d'ici décembre 2023. En raison de nombreuses modifications architecturales liées à des défauts techniques, ce projet en cours depuis 2007 a connu plusieurs années d'interruption des travaux. L'infrastructure en construction à 40 km au sud-est du centre-ville de Luanda est prévue pour relayer le principal aéroport existant afin de suivre la progression du trafic et aider à desservir particulièrement les pays d'Afrique centrale et australe. D'après un nouveau plan dévoilé en mars dernier par le ministère des Transports, la nouvelle plateforme devrait être reliée à un réseau ferroviaire pour atténuer les difficultés d'interconnexion avec le centre-ville de la capitale. Une fois opérationnelle, la plateforme pourrait traiter jusqu'à 15 millions de passagers et près de 50 000 tonnes de marchandises par an. Bourse de Lagos, le franc CFA a limité les pertes de change. Pour Airtel Africa, mais MTN n'a pas eu la même opportunité. Airtel Africa et MTN Nigeria ont signalé des pertes élevées dues à la dévaluation des monnaies, notamment le Naira, malgré une augmentation des revenus. Rien qu'au Nigeria, Airtel a perdu 24 millions de dollars en 15 jours, tandis que MTN Nigeria a enregistré une perte de 130 millions de dollars en frais de change. Airtel Africa, coté sur la Nigerian Stock Exchange, a signalé dans son rapport des trois premiers mois comptables achevés fin juin 2023 une appréciation de 2,2% du franc CFA. Cette monnaie utilisée dans ses filiales au Gabon, au Tchad et en République du Congo a aidé l'entreprise à contenir quelque peu les pertes de change dues à la dévaluation des monnaies dans d'autres pays où elle est présente, tels que le Nigeria, la Zambie, le Malawi et le Kenya. La situation au Nigeria, marché principal du groupe de télécommunications, demeure préoccupante. Les analystes ont estimé que chaque pourcentage de Naira dévalué sur une période de 12 mois entraînait une perte de 12 millions de dollars pour l'entreprise. Actuellement, la monnaie nigériane s'échange à une moyenne de 750 Naira pour 1 euro sur le marché officiel, marquant une baisse de 38% par rapport au taux de 461 précédemment en vigueur. Airtel Africa affirme avoir perdu 24 millions de dollars en seulement 15 jours de dévaluation. De son côté, MTN Nigeria, première entreprise cotée de la bourse de Lagos et active uniquement au Nigeria, a déclaré une perte de près de 210 milliards de nairas en frais de change à la suite de la dévaluation survenue automatiquement en juin. La méthode de calcul de MTN reste obscure. En ce qui concerne les résultats consolidés en Naira, les pertes de change pourraient devenir le principal sujet de discussion parmi les entreprises nigérianes, en particulier celles obligées de régler des factures en devises étrangères.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.